Avec Angle Neuf, LCL propose aussi de l'immobilier.
Avec Angle Neuf, la filiale immobilière de LCL, il est possible de trouver votre appart et son financement au même endroit. LCL, ma vie, ma ville, ma banque. LCL est élu service client de l'année 2024, catégorie banque de réseau pour les particuliers. Plus d'infos sur escda.fr. Prêt immobilier sous réserve d'acceptation de votre dossier par le prêteur LCL. Plus d'infos sur lcl.fr.
Vous écoutez France Inter, il est 13h. Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Il a fait découvrir New York à des millions de lecteurs. La disparition la nuit dernière de l'écrivain Paul Auster à l'âge de 77 ans. L'auteur de la trilogie new-yorkaise était un amoureux de la France. Nous le constaterons dans les rues de Paris. Et nous serons en ligne avec l'un de ses plus fidèles lecteurs, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. À suivre encore, pas de pause dans la campagne électorale en ce jour férié des candidats aux européennes dans les cortèges du 1er mai. Bonjour Mathilde Imberti.
Bonjour à tous.
Vous êtes à Saint-Étienne où le candidat Raphaël Glucksmann a été pris à partie ce matin.
Oui, pris à partie par quelques militants de gauche et n'a jamais pu rejoindre le cortège stéphanois.
Votre reportage dans quelques minutes. Dans ce 13-14 également, nous serons en direct de Géorgie. Manifestation des pro-européens hier soir. Réprimés, ils craignent que leur pays ne reste sous la coupe de la Russie. Et puis nous irons à Dortmund, en Allemagne. Le Paris Saint-Germain favori ce soir de sa demi-finale de Ligue des Champions. Nous verrons pourquoi. À partir de 13h30, nous parlons des petites mains, ces travailleurs invisible et pourtant indispensable, mise à l'honneur dans un film qui sort aujourd'hui et qui s'inspire du mouvement des femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles à Paris. Si vous vous reconnaissez dans ce combat, dans ce profil, vous nous appelez 01 45 24 7000. On parle aussi cinéma dans une vingtaine de minutes avec vous, Alexis Demeyer. Bonjour Alexis.
Bonjour Jérôme.
Jour férié, météo grise, on a besoin de vos conseils.
Eh ben, je vais vous recommander cette semaine un film enquête, un western et une plongée dans la forêt amazonienne.
À tout à l'heure. 13h50, c'est la France. Pourquoi est-il plus cher d'aller à Bordeaux en train qu'à Rome en avion? Éric Fotorino, du 1 Hebdo. Et puis juste avant 14h, l'écrivain Grégoire Delacour choisit la chanson Everybody Hurts du groupe REM. C'est avec Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Un auteur à part dans la bibliothèque française. Paul Auster était, il y a encore quelques semaines, le seul écrivain non francophone à figurer dans les 10 meilleures ventes de livres en France avec son dernier roman, Baumgartner. Cela dit beaucoup de l'attachement des lecteurs français à cet écrivain américain, figure de New York, il s'est éteint chez lui, dans le quartier de Brooklyn, la nuit dernière, des suites d'un cancer du poumon. Icône new-yorkaise donc, mais tellement attaché à la France et à Paris, où il vécut 4 ans dans les années 70 entre petit boulot et découverte des poètes avant de devenir le grand auteur que l'on sait. Paul Auster et la France, dans sa voix, nous sommes en 2013, au moment de la sortie de Chroniques d'hiver, un ouvrage où il est question de la vieillesse, de sa mère et de notre pays.
J'adore la France, vraiment, c'est une partie de ma vie profonde. Mais il y a certaines stupidités françaises qui se présentent de temps en temps. C'était pas que je voulais attaquer la France, hein. Simplement raconter les choses qui sont arrivées quand je suis venu en France pour vivre. Je ne parle pas dans le livre de mes grandes amitiés avec les amis français. C'était pas le but du livre.
Paul Auster, c'est une trentaine de romans, des traductions dans une quarantaine de pays. Nous parlerons précisément de son style dans un instant avec sa traductrice. Mais avant cela, partons sur ses traces à Paris avec vous, Sarah Mansoura. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Vous vous êtes rendue ce matin d'abord dans cet hôtel de la rive gauche où il avait ses habitudes.
Oui, au cœur de Saint-Germain-des-Prés, à deux pas de là où Paul Auster a logé dans une chambre de bonne entre 71 et 75. Jean travaille dans une de ses adresses préférées de l'écrivain. On le retrouve dans un très calme et verdoyant patio que Paul Auster affectionnait.
Voilà une petite oasis, c'est de chance, un petit lieu de refuge où il aimait se poser et prendre le temps. Je pense qu'il aimait juste s'inspirer et apprécier la ville.
La dernière fois qu'il l'a croisé, c'était il y a 2 ans. Il garde le souvenir d'un homme très simple.
Très abordable, très humain, pas diva. Je pense très au contraire très, très discret. Francophile et francophone. Il s'exprimait en français également, et très bien.
Francophile, il faisait souvent escale aussi en librairie à Paris. Marie-Rose Garnieri est gérante de la librairie des Abbesses dans le 18e, l'y a croisé à 3 reprises.
jury, il est rentré dans ma librairie et j'étais occupée. Et ce coup, il a dit, bonjour, vous avez les livres de Paul Auster? Alors moi, j'ai dit, oui, bien sûr, on a toute son œuvre. Et d'un coup, je monte à l'échelle, je me retourne et c'était Paul Auster, très amusé de me faire cette farce.
Ses clients demandent surtout la trilogie new-yorkaise, mais elle conseille aussi L'invention de la solitude ou Moon Palace, ouvrage que Paul Auster est d'ailleurs venu présenter lui-même lors de rencontres.
Si je n'avais pas fait ce métier, je n'aurais pas eu cette chance d'être à ses côtés pendant 2-3 heures. Et j'aimais beaucoup la façon dont il avait une écoute pleine de tact pour les gens qui venaient le saluer et tout.
Et le New-Yorkais pris de la France laisse derrière lui une trentaine d'œuvres.
Merci Sarah Mansoura. Je vous ai dit un mot en introduction de son dernier roman, Baumgartner, publié en France il y a tout juste 2 mois. C'est Anne-Laure Tissu qui en a assuré la traduction en lien étroit avec Paul Auster. Elle est donc l'une des mieux placées pour nous parler de son style.
C'était des échanges qui allaient au-delà de la simple fonction de relecture d'une traduction. C'était des échanges très humains aussi, ce qui permet, je pense, de faire du bon travail. Enfin, j'étais quand même très impressionnée d'avoir à travailler sur des textes si élaborés, si riches, en références, si précis dans leur lexique, qui inclut aussi tant de références à l'histoire des États-Unis notamment. Et puis, un style qui allie d'amples périodes, parfois des phrases très longues avec un rythme très marqué et très marquant. Dans le même temps, une grande économie. Plus que jamais, il me semble, dans son style, chaque mot porte et ne pourrait être remplacé par aucun autre, tant pour sa valeur musicale que pour ses suggestions de sens qu'il véhicule.
La traductrice Anne-Laure Tissu au téléphone d'Alexis Demeyer. Alors pour nous parler plus longuement de Paul Auster et de son lien avec la France, nous avons cherché ce matin des personnalités qui l'avaient côtoyé, rencontré, aimé, et cela nous a conduit jusqu'à vous, Édouard Philippe. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce 13-14. Vous êtes maire du Havre, vous avez été Premier ministre entre 2017 et 2020. Vous avez rencontré Paul Auster, vous l'avez aussi accueilli chez vous au Havre. Mais je voudrais d'abord que vous nous parliez de son œuvre. Qu'est-ce qui vous a séduit dans son écriture, dans les histoires qu'il raconte ?
Moi, j'ai commencé à lire Paul Auster au début des années 90. À l'époque, on le lisait beaucoup en France. Et il se trouve que c'est un moment où j'ai découvert peut-être un peu par hasard. En fait, c'était pour moi un peu la figure de l'écrivain new-yorkais. Vous voyez, beau, enraciné à Brooklyn, intelligent, écrivant dans une langue qui était très, à la fois très simple et très travaillée. Donc il y avait une espèce de fascination. Je me souviens des premiers livres que j'ai lu de lui, et notamment de celui que je préfère encore d'ailleurs maintenant, qui est le Voyage d'Anna Blum, qui est probablement un de ses plus sombres, très très dur même, mais très beau. Et il m'a accompagné quand j'ai vécu un petit peu dans ma vie à New York. Donc j'avais cette grande admiration pour l'œuvre, et puis cette espèce de fascination pour l'homme, qui était très fascinant, je dois dire.
Est-ce que cette fascination s'est renforcée quand vous l'avez rencontré chez lui des années plus tard ?
Oui, je voulais absolument l'inviter au Havre dans le cadre d'un festival littéraire, et donc j'avais profité d'un voyage à New York pour lui demander de me laisser essayer de le convaincre de venir au Havre. Et très gentiment, il m'avait invité chez lui à Brooklyn. On avait passé, au début, on devait simplement boire un verre, puis finalement, on avait passé la soirée ensemble avec sa femme, Siri, dans un restaurant italien, puis on avait continué à parler. Il avait une connaissance très impressionnante de la littérature française, et notamment de la littérature du 18e et du 19e, mais du 18e, avec des auteurs que, pour dire la vérité, je connaissais pas forcément. Il était très francophile, vous l'avez dit, c'est juste, très simple, et il avait accepté à la fin de la soirée de venir au Havre 2 ans après. Donc je l'avais accueilli, là aussi avec sa femme, toujours Siri, qui est un écrivain aussi... aussi important à mon avis que l'était Paul, et toujours avec cette grande simplicité, toujours avec cette francophilie. Il avait parlé de son œuvre à l'occasion de ce festival, donc c'est à chaque fois ça a été des rencontres très... Il mettait les gens à l'aise. Il n'était pas, il vous tapait pas sur l'épaule en disant tout de suite que c'était votre meilleur pote. C'était pas son sujet, mais c'était pas sa façon d'être. Mais il était un homme simple qui aimait les relations simples, je crois.
On connaît ses idées politiques, soutien des démocrates aux États-Unis. Vous aviez parlé politique.
C'était Trump.
Oui, vous aviez parlé politique avec lui.
Ah oui, bah évidemment, oui. Et enfin évidemment, oui, bien sûr, on avait parlé politique. Il détestait Trump. Il détestait Trump à un point tel qu'il ne prononçait jamais son nom. C'est presque comme Voldemort dans Harry Potter. Ouais. Il ne prononçait jamais son nom. Donc, il utilisait toujours une périphrase et il ne voulait pas prononcer son nom. Il avait une détestation profonde. Oui.
C'est lui qui avait mis ce sujet-là dans la conversation entre vous ou c'est vous qui l'aviez peut-être sollicité sur la présidence de Donald Trump à l'époque ?
Je ne sais plus comment ça s'était passé. On dînait chez moi, on avait parlé de politique, parce qu'à l'époque, j'étais Premier ministre, lui était un observateur attentif de la vie politique américaine. Il avait écrit, mais je crois que c'était après, il a écrit un petit essai, très, très, très beau petit essai sur l'usage des armes aux États-Unis, accompagné de photographies de lieux où s'étaient passées des tueries de masse. Et il était très, très fasciné par la place de la violence et par la place des armes à feu dans l'histoire et dans la psychologie américaine. C'est un très beau livre qu'il avait écrit sur ça, où il parlait de sa mère et de sa grand-mère et de la place des armes à feu, y compris dans sa propre vie familiale.
Merci Édouard Philippe d'avoir partagé votre goût, votre fascination, je reprends votre mot, pour Paul Auster après la disparition de l'écrivain américain la nuit dernière. Nous reviendrons bien évidemment sur son parcours, sur son œuvre. Ce soir, ce sera notamment dans Un jour dans le monde autour de Fabienne Sintès à partir de 18h20. Et puis vous pourrez le réécouter, ce sera dans L'heure bleue à partir de 20h. Entretien avec Laure Adler réalisé en 2018. L'actualité de ce 1er mai, journée international des travailleurs. Ce sont aussi ces manifestations dans de très nombreuses villes de France pour la défense des droits des salariés. 265 rassemblements aujourd'hui selon le syndicat CGT. L'an dernier, la mobilisation contre la réforme des retraites avait gonflé les cortèges. Rien de tel cette année. Les défilés sont plutôt l'occasion de faire campagne pour certains candidats aux élections européennes. Et il y a en la matière un match Lyon-Saint-Etienne. Aujourd'hui, on vous retrouve, Mathilde Imberti, puisque vous êtes à Saint-Etienne. Où se trouvait le candidat PS Place Publique Raphaël Glucksmann, alors que la candidate des Insoumis, Manon Aubry, elle, était à Lyon. Mais ce matin, Raphaël Glucksmann a été pris à partie par des militants, notamment communistes.
Oui, tout juste arrivé dans la manifestation, le cortège n'avait pas démarré, le candidat est pris à partie par un groupe qui scande « Glucksmann, casse-toi, Sainté n'est pas à toi ». Des œufs volent, des taches vertes en témoignent sur les manteaux de l'équipe du candidat. Dans ce groupe contestataire, il y avait en effet notamment des jeunes communistes de la Loire et ils assument, ici Arthur, 22 ans.
Raphaël Glucksmann, nous c'est un peu tout ce qu'on rejette, c'est un Macron bis qui a des positions pareilles sur les positions internationales qui nous paraissent extrêmement bellicistes. C'est pas capable de manifester, mais notamment sur une manifestation comme celle-ci, pour le droit des travailleurs, il était au PS, c'est le PS qui a fait la loi travail, il vote 80% des lois au Parlement européen, il est aligné sur le parti Renaissance.
Alors le cortège s'est ébranlé finalement, le candidat n'a jamais pu le rejoindre et le regrette, Raphaël Glucksmann.
C'est leur conception du débat démocratique, c'est pas la nôtre. Ils ont décidé de faire une campagne qui électrisait tout. Ils ont décidé que, alors qu'on a une extrême droite à 40%, 80% de leurs tweets à l'AFI est consacré à Raphaël Glucksmann et à la liste socialiste Place Publique. Donc à un moment, ils ont choisi leur adversaire. Nous, notre adversaire, ça reste Jordan Bardella. Nous, notre adversaire, ça reste la montée de l'extrême droite.
2500 manifestants ont défilé à Saint-Etienne ici pour le droit des travailleurs et notamment pour ceux du groupe Casino. De très nombreux Palestiniens flottent aussi dans le ciel nuageux stéphanois.
Merci Mathilde Imberti en direct de Saint-Etienne. Réaction de Jean-Luc Mélenchon, le leader insoumis après l'éviction de Raphaël Glucksmann de ce cortège stéphanois. Il désapprouve, je cite, totalement cette expulsion qu'il qualifie de diversion médiatique contre le 1er mai. Fin de citation. La campagne pour les élections européennes donc bat son plein, le scrutin le 9 juin, dans un peu plus d'un mois. Pour l'instant, l'ensemble des études d'opinion donne le Rassemblement national, largement en tête des intentions de vote, autour de 30%. Le RN présente d'ailleurs sa liste cet après-midi dans l'un de ses fiefs, Perpignan, et l'urgence pour ses rivaux, c'est donc de réagir et vite. Deux illustrations aujourd'hui, le parti Reconquête et Marion Maréchal sur les terres de Jeanne d'Arc dans les Vosges. Nous y serons dans un instant. Et puis l'entrée en campagne du Premier ministre, Gabriel Attal, ça se passait ce matin à la foire de Beaugency, dans le Loiret, où vous vous trouvez, Marie Mollet. Bonjour Marie.
Bonjour.
Gabriel Attal sur le terrain.
Oui, une odeur de frites et de caramel. Au loin, le bruit des autotamponneuses et des manèges. Et devant le stand de Rome.
Ça va, ça se passe bien la foire? Là, monsieur m'a dit foire pluvieuse, foire heureuse.
Le Premier ministre n'a pas de tract, mais ce déplacement a des airs de campagne. Ici, sur une terre favorable au vote Emmanuel Macron, pluie de selfies, Gabriel Attal interpellé aussi devant le stand de saucissons sur la montée du vote RN et les européennes.
Moi, pour moi, l'Europe, je suis un Européen convaincu. Mais aujourd'hui, l'Europe, qu'est-ce que c'est pour les gens? On nous interdit ici, on nous interdit.
Ça va, ça se passe bien la foire? Là, monsieur m'a dit foire pluvieuse, foire heureuse.
C'est le fait de savoir si on continue en Europe ou pas. Moi, je considère, avec Valérie Ayé, qu'il faut rester dans l'Union Européenne. Et on va se battre pour continuer à la faire changer.
Maintenant, il faut enlever...
Le Premier ministre, qui donc défend sa liste, vite répondre à ceux qui, dans son camp, lui reprochent d'être resté bien discret dans la campagne jusqu'ici par peur d'être éclaboussé par un possible échec. Alors, s'il rentre en campagne, peut-il y avoir un effet Attal pour donner un coup de fouet à la liste Renaissance à la peine? Dans les allées, les avis sont partagés.
Non, à un mois des élections, je ne pense pas que ça change quelque chose, le fait qu'il vienne.
Il y a Valérie ailleurs, hein. C'est à elle de faire ses preuves, pas à lui. Il ne va pas l'aider.
Ça peut enclencher une dynamique. Il a ce dynamisme-là et ce charisme-là.
Et en gage de sa bonne volonté, le Premier ministre a accepté le principe d'un débat avec Jordan Bardella pour tenter de mobiliser son socle.
Merci Marie Mollet, en direct du Loiret. Tailler des croupières au Rassemblement National, c'est aussi l'objectif du parti Reconquête d'Éric Zemmour. Sa liste pour les européennes est menée par une ancienne du RN, Marion Maréchal, qui rend hommage aujourd'hui à la figure de Jeanne d'Arc, longtemps honorée par le RN. C'est à Don Rémy Lapucelle. Reportage sur place, Marion Ferrer.
Marion Maréchal veut créer sa propre tradition, nous dit-elle, ici dans les Vosges. Un hommage à Jeanne d'Arc qui a débuté avec une visite de cette maison Natal, puis Marion Maréchal s'est rendue à la basilique située à quelques kilomètres pour y déposer une gerbe de fleurs. La candidate de Reconquête se défend de toute récupération mais assume son héritage familial.
Au-delà de ma famille, c'est vrai que bon, moi j'ai des souvenirs émus de cet hommage à Jeanne d'Arc, c'est une figure que j'aime depuis l'enfance. Je voulais moi aussi pouvoir lui rendre hommage parce que je considère aujourd'hui que le combat qu'on mène c'est un combat de reconquête pour la France et les Français au même titre d'une certaine manière que Jeanne à son époque.
Et Marion Maréchal en profite pour envoyer un message aux électeurs du Rassemblement National, le RN qui lui a pris ses distances avec le symbole de Jeanne d'Arc et avec Jean-Marie Le Pen.
Si bien sûr les électeurs du RN voient là l'occasion de pouvoir perpétuer avec nous un hommage auquel ils étaient attachés et qui est peut-être aujourd'hui un peu plus délaissé, eh bien, ils sont évidemment les bienvenus.
Quant à l'absence d'Éric Zemmour en déplacement aujourd'hui dans le Sud, il n'y a aucune tension, nous assure-t-on, au sein de Reconquête. Seulement le besoin d'occuper au maximum le terrain avant le scrutin.
Marion Ferrer dans les Vosges pour Inter. On l'a vu à Saint-Étienne. Il y a quelques minutes, la guerre au Proche-Orient a des effets sur la campagne électorale en France. À gauche. Conséquence aussi, aux États-Unis, les étudiants de plusieurs universités protestent contre l'action d'Israël à Gaza et à Los Angeles. Il y a quelques heures, cette mobilisation a dégénéré. Bonjour Valérie Crova.
Bonjour.
Affrontement entre groupes pro-israéliens et pro-palestiniens.
Oui, des affrontements violents qui ont débuté vers 2h du matin quand des manifestants pro-israéliens sont arrivés sur le campus de l'université UCLA où des étudiants pro-palestiniens avaient établi depuis plusieurs jours un campement sur une pelouse entourée de barricades. Sur les images diffusées sur les réseaux sociaux et reprises par toutes les chaînes américaines, des groupes de jeunes masqués ou cagoulés démontent les barricades sur lesquelles sont écrits des slogans favorables à la Palestine et à Gaza, échangent des coups de bâton, des coups de pied, certains en viennent aux mains et les insultes fusent. Alors qu'il n'avait pas demandé jusqu'à présent l'intervention de la police, le chancelier de l'université a été contraint de faire appel aux forces de l'ordre pour ramener le calme, comme hier soir, à l'université de Columbia de New York, où la police a procédé manu militari à des dizaines d'interpellations. Le chancelier de UCLA avait mis en garde contre la présence de personnes extérieures parmi les manifestants qui occupaient le campus où des heurts avaient déjà éclaté dimanche dernier entre les deux camps.
Merci Valérie Crova pour ces précisions. Vous nous parlez de la guerre entre Israël et le Hamas et de ses conséquences aux États-Unis. Les dirigeants du mouvement islamiste n'ont toujours pas donné leur réponse sur la proposition de trêve transmise par Israël. Le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, lui est arrivé ce matin au Caire. L'Égypte est l'un des pays qui participent à cette médiation. Ce 1er mai est décidément une date très symbolique. Le 1er mai 2004, il y a 20 ans, jour pour jour, 10 pays de l'Est de l'Europe, dont beaucoup de l'ex-bloc communiste, rejoignaient l'Union européenne. Nombre d'entre eux sont aujourd'hui les alliés les plus fidèles de l'Ukraine. Autre pays, toujours dans le giron de Moscou, mais qui est désormais candidat officiel à l'adhésion à l'Union, c'est la Géorgie, pays situé entre la Russie et la Turquie, et qui se déchire en ce moment sur la question du rapprochement avec l'Union européenne. Une manifestation des pro-UE a été violemment réprimée hier soir. Bonjour Régis Janté.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Tbilissi, la capitale. Régis, qui a mis le feu aux poudres, c'est un projet de loi qui condamnerait quasiment les chances du pays de rejoindre l'Union.
Oui, c'est ça. C'est un texte qui avait d'ailleurs été présenté une première fois en mars de l'an passé et que le gouvernement avait dû retirer du fait des rassemblements massifs pour s'y opposer. Ce projet dit sur les agents de l'étranger qui prévoit d'obliger les organisations de la société civile et les médias de se déclarer agents de l'étranger si plus de 20% de leur budget vient d'un autre pays, ce qui est le cas dans ce pays pauvre qu'est la Géorgie. Eh bien, il est qualifié de loi russe par ses détracteurs. Mais le rêve géorgien, qui est le parti au pouvoir de l'oligarque Bilzina Ivanishvili, a décidé de le représenter et cela fait maintenant 3 semaines à peu près que cela suscite des manifestations quotidiennes dont 2 qui ont réuni plus de 40 000 personnes, ce qui est beaucoup pour un petit pays comme la Géorgie de 3,7 millions d'habitants. Et inquiet, donc, le parti au pouvoir a organisé une contre-manifestation ce lundi de 100 000 manifestants peut-être, mais très encadrés, amenés à Tbilissi en minibus.
Alors, manifestation et contre-manifestation, Régis, est-ce qu'il y a des risques d'embrasement ?
Il existe, me semble-t-il, la situation me fait penser un peu à celle de l'Ukraine en 2013. On connaît la suite. En Ukraine, en renonçant aux négociations d'un accord d'association avec l'Union européenne, le président Yanukovych avait provoqué une vive réaction d'une partie de la population qui refusait de se voir privée de son avenir européen et qui refusait, de fait, le rapprochement avec la Russie. Et c'est bien la même chose ici, avec 85% des Géorgiens qui disent vouloir que leur pays adhère à l'UE. Alors, ce chiffre de 85% est à prendre avec des pincettes, d'autant que le message du gouvernement géorgien, consistant à vilipender l'Occident, avec les mêmes arguments que la Russie de M. Poutine d'ailleurs, eh bien fait son effet. Du coup, on a l'impression d'assister au creusement du fossé entre deux Géorgies, une qui ne rêve que d'Europe et une qui commence à en douter.
Merci Régis Janté pour ces explications en direct de Tbilissi en Géorgie pour Inter. En Arabie Saoudite, là, la préoccupation vient du ciel. Déluge ces dernières heures, des routes impraticables et des écoles fermées aujourd'hui. En France, attention aux orages. 14 départements de la moitié nord sont en vigilance orange. Ceux de la région Île-de-France, plus l'Oise, la Somme, l'Aisne, la Marne, l'Aube et Lyon. Météo complète dans moins de 10 minutes. Dans le département de l'Aube, précisément la nuit dernière, 2 hommes ont été tués par balle, près de 3. Cela s'est passé sur un camp de gens du voyage sédentarisé. Un homme de 53 ans a été interpellé. Et puis à Toulon, un homme est soupçonné d'avoir renversé plusieurs personnes avec sa voiture. Cela s'est passé en fin de nuit, à la sortie d'une boîte de nuit. Il y a un mort et un blessé grave. Cet automobiliste, âgé de 20 ans, est en garde à vue.
France Inter, le 13-14... Jérôme Cadet.
C'est un mur, mais a priori, il n'a rien d'infranchissable pour le Paris Saint-Germain. Demi-finale allée de la Ligue des champions de football ce soir pour les Parisiens en Allemagne à Dortmund face au Borussia et son célèbre mur jaune composé de ses bruyants supporters. Bonjour Xavier Monferrand.
Guten Tag Jérôme, bonjour à tous.
Vous êtes sur place pour Inter, vous suivrez ce soir ce sommet du foot européen. Le PSG a tout pour franchir l'obstacle, hein, Xavier. Dortmund, c'est a priori l'équipe la plus faible de ces demi-finales.
Oh bah oui, c'est pas faire offense au Borussia que de dire que c'est un peu l'invité surprise de ce dernier carré. Mais il faut se souvenir quand même que Dortmund avait terminé devant le PSG en phase de groupe, hein, et qu'au tour précédent, oui, c'est vrai que le PSG a sorti le Barça, mais le Borussia a quand même éliminé l'Atlético Madrid. C'est pas rien non plus. Alors, oui, Dortmund ne fait pas peur. Les supporters parisiens se voient déjà en finale. On en a vu certains, hein, qui ont déjà tout réservé pour Londres le 1er juin. Mais quand même, attention au karma. Hein, l'ADN du PSG, cette Ligue des Champions, lui échappe quand même depuis toujours. Mais c'est vrai que sur le papier, Paris est favori. Mmh. Paris a changé, les Parisiens ont confiance, sont calmes, sereins. C'est le message qui est un peu distillé maintenant depuis le 8e de finale contre la Real Sociedad. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Certes, le PSG n'a jamais gagné à Dortmund dans son histoire, mais il ne s'était jamais non plus qualifié en Ligue des Champions après avoir perdu au match aller. Vu ce qui s'est passé à Barcelone, tout est possible désormais.
Un mot, Xavier, d'un Français qui a brillé hier soir dans l'autre demi-finale. mondiale, de partout entre le Bayern Munich et le Real Madrid. C'est l'arbitre Clément Turpin et il avait la pression, hein, on en a parlé hier ici même.
Oui, et il est même encensé hein, ce matin dans la presse. Sa performance est saluée unanimement par les journaux étrangers et français aussi. Il a joué une partition à la hauteur du rendez-vous, il faut bien le dire, avec beaucoup de justesse. Deux pénaltys sifflés, un de chaque côté, sans avoir besoin de l'aide de la VAR et avec raison. Bon, sur les terrains de Ligue 1, c'est parfois plus compliqué pour M. Turpin, mais là, vraiment grosse impression.
Quand les arbitres se trompent, il faut le dire. Quand ils font des bons matchs, il faut le dire aussi. Et c'est fait. Merci Xavier Monferrand. Bon match ce soir à Dortmund.
Moteur.
T'as de bons yeux, tu sais.
Et nous voilà à l'heure du cinéma avec vous, Alexis Demeyer, et vos conseils pour faire le tri dans toutes les sorties du jour. On va commencer, Alexis, avec un film français, mais qui se passe à Bruxelles. Ça s'appelle Une affaire de principe.
La commission doit rendre les comptes au Parlement. Et Barroso, je suis désolé, il doit respecter la règle comme tout le monde.
Qui êtes-vous, monsieur ?
José Beauvais.
Ah oui, c'est vous. C'est terrifiant, votre populisme.
Bully Lanners dans le rôle de l'eurodéputé français José Beauvais avec Une affaire de principe. Le jeune réalisateur Antoine Rimbaud nous plonge dans les coulisses des institutions européennes avec l'histoire vraie, c'était il y a 12 ans, de la démission du commissaire européen à la santé accusé à tort de corruption. À l'époque, José Beauvais s'était transformé en lanceur d'alerte à Bruxelles et même en enquêteur pour démontrer que derrière ces accusations mensongères se cachait le lobby du tabac, bien décidé à empêcher ainsi l'adoption de directives contraignantes, notamment sur le paquet neutre. Formellement et narrativement, le film se révèle très classique, mais cette affaire hors norme et finalement peu connue est tellement saisissante que l'on reste scotché devant l'écran jusqu'à son dénouement. Direction les États-Unis maintenant pour un western intitulé Jusqu'au bout du monde.
Oui, c'est la deuxième réalisation du comédien Viggo Mortensen, l'histoire tragique d'un couple au temps de la guerre de sécession.
We're looking for men of honor. We want to fight to save the Union.
This is not your problem. This is not your country.
It is the right thing to do.
We have a life together now.
Sur les quais du port de San Francisco, l'immigrant danois Holger, joué par Mortensen himself, rencontre la canadienne Vivienne, interprétée par la formidable Vicky Krieps. Le couple s'installe dans un petit village du Far West, mais Holger va devoir y laisser sa femme seule pour rejoindre les rangs de l'armée de l'Union. Jusqu'au bout du monde dépeint une Amérique sans foi ni loi où les femmes, mais aussi les Mexicains, sont victimes des pires violences en toute impunité. Viggo Mortensen permet ici au western, ce genre en voie d'extinction au XXIe siècle, de se renouveler discrètement mais sûrement.
Suite de notre tour du monde, Alexis, nous sommes au Brésil.
La fleur de Buriti s'intéresse au Crao, l'une des tribus amérindiennes les plus menacées par la déforestation de l'Amazonie. La brésilienne René Nader Messora et le portugais João Salavisa ont inventé un dispositif très convaincant pour sensibiliser le public au sort de ce peuple autochtone. Mi-documentaire, mi-fiction, la fleur de Buriti évoque aussi bien la vie quotidienne des Crao que leur persécution par les autorités brésiliennes. D'autant que le film a été tourné au moment où Jair Bolsonaro était au pouvoir à Brasilia. Le duo de réalisateurs nous offre une œuvre touchante et militante d'une beauté visuelle renversante.
Sur le pouce, Alexis, quoi d'autre à l'affiche aujourd'hui ?
Le tableau volé, 9e réalisation du grand scénariste Pascal Bonitzer, qui s'intéresse ici à une toile d'Egon Schiele spoliée par les nazis. Borderline, une angoissante fiction sur des interrogatoires menés par la police des frontières new-yorkaises, et The Fall Guy, version ciné avec Ryan Gosling de la série de notre enfance, Jérôme, l'homme qui tombe à pic.
On s'en souvient, effectivement. Merci Alexis Demeyer pour ses conseils. 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac, et puis on va continuer de parler cinéma à 13h30 avec nos invités, une comédie sociale également sur les écrans ce mercredi, Les Petites Mains, film inspiré du combat des femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles à Paris. On rit et on réfléchit et on en parle avec nos invités et avec vous. 01 45 24 7000, vos témoignages par exemple si vous exercez un des métiers pénibles décrits dans le film mais peu reconnus. 13h45, notre feuilleton, on est au Brésil hein, toujours, telle une petite souris dans le dernier voyage officiel d'Emmanuel Macron, rien ne nous échappe. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Éric Fotorino, Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Jérôme.
Éric nous rejoint dans quelques minutes et il nous parlera de train, pourquoi les billets de train sont-ils si chers ? En ce moment, il lève le voile et avec vous, Frédéric, dans C'est une chanson, un écrivain.
Grégoire Delacour, qui vient de publier la liste de mes envies d'eux. C'est le chiffre 2, le livre. Oui. C'est la suite de son best-seller sorti il y a 10 ans. Et Grégoire Delacour nous parlera d'une chanson du groupe REM, une chanson qui l'émeut aux larmes chaque fois qu'il l'entend.
Merci Frédéric, à tout à l'heure.
En France, les crises sanitaires et économiques ont aggravé la précarité de millions de personnes. À la Fondation Caritas France, nous avons une conviction. La précarité n'est pas une fatalité. Nous soutenir, c'est s'engager pour une France plus fraternelle et proposer des solutions durables et innovantes pour les plus fragiles d'entre nous. Faites un don sur fondationcaritasfrance.org et bénéficiez d'une déduction fiscale. Fondation Caritas France, au plus près de ceux qui s'engagent.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec le baume Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Bonjour Élodie Callac.
Bonjour à tous.
Je parlais d'une météo grise tout à l'heure, tant aller au cinéma. C'est bien une journée pluvieuse et orageuse.
Et oui, sur la moitié sud, sur la moitié ouest également, de bonnes pluies circulent, parfois marquées vers la Provence, le Massif central et la Normandie, avec quelques orages possibles. Près de l'océan, ça va s'éclaircir quand même un petit peu, mais avec toujours des averses, surtout vers la côte aquitaine. Sur les Alpes frontalières, beaucoup de neige au-dessus de 1100 mètres. Plus bas sur les Pyrénées, vers 1000 à 1500 mètres. Sur le nord-est, jusqu'au nord de la Seine. On a encore des éclaircies, mais ça tourne à l'orage cet après-midi sur la Bourgogne-Franche-Comté, puis vers l'Île-de-France et les Hauts-de-France, et même vers les Ardennes. 14 départements sont en vigilance orange. À partir de la fin d'après-midi jusqu'en milieu de nuit prochaine, on attend des orages parfois violents avec des pluies intenses, de la grêle, de fortes rafales de vent, donc soyez extrêmement prudents. Et on a des températures qui sont très contrastées, fraîches sur l'ouest avec seulement 10 à 14 degrés, 10, mais 21 à 26 degrés du nord de la Seine jusqu'au nord-est et les 26 du côté de Strasbourg.
Plus de 10 degrés d'écart entre l'ouest et l'est, donc aujourd'hui.
16 même.
16, c'est ça, plus de 10 degrés. Merci Élodie Callac, Météo France.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
Et puis un jour, les petites mains en ont eu marre. C'était en 2018-2019 à Marseille, à Paris, dans plusieurs hôtels. Hôtel lambda, hôtel de luxe. Des femmes de chambre se mettaient en grève pour demander de meilleures conditions de travail et dénoncer les mauvais traitements. Ces mouvements ont été longs, souvent victorieux. Le plus connu d'entre eux a été mené à l'hôtel Ibis Batignolles à Paris. Et il sert d'inspiration à un film qui sort aujourd'hui en salle. Il s'intitule précisément Petite main. Bonjour Nessim Chikaoui.
Bonjour.
Vous en êtes le réalisateur. Votre premier film s'intitulait Placé. Il était inspiré de votre expérience d'éducateur. On vous connaît également pour avoir écrit le scénario du film Les Tuches. Merci d'être avec nous. Avec nous également Sylvie Kimissa-Esper. Bonjour.
Bonjour.
Vous étiez l'une des femmes de chambre de l'Ibis Batignolles. Vous avez participé à cette longue grève de juillet 2019 à mai 2021. Merci d'être avec nous également. Vous travaillez toujours là-bas ?
Oui, je travaille toujours à l'hôtel Ibis et Batignolles.
Toujours.
Et toujours vous... femme de chambre.
Oui. Exactement. Et vous êtes venue avec ce t-shirt sur lequel je lis « Petite main, la lutte avec classe ». C'est un bon jeu de mots, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Qu'est-ce que ça représente pour vous, Sylvie Kimissa-Esper, de se replonger dans cette histoire aujourd'hui et de voir votre combat porté à l'écran ?
Ça fait toujours un plaisir. Ça fait toujours un plaisir, ce film, en le regardant tout le temps, ça me touche, ça me va droit au cœur. Et merci pour Nessim, parce qu'il était temps. Il était temps que les petites mains, que les métiers essentiels puissent être au grand écran aujourd'hui. Il était temps, parce qu'on n'en parle pas. C'est un secteur qui a été oublié. C'est un secteur qu'on ne parle jamais. Les femmes de ménage, les femmes de chambre... Ça, on n'en discute pas, on n'en parle pas, parce que ce sont les invisibles. Et aujourd'hui, au grand écran, c'est un grand plaisir pour moi. Et pour la lutte que j'ai menée pour, avec nos camarades, parce que c'est un énorme plaisir. Ça, en fait, je n'en reviens pas. Quoi.
De voir la lutte que vous avez menée comme ça portée au cinéma.
Tout à fait.
Il faut toujours que vous pinciez pour réaliser.
Devant les milliers de personnes... Ouais. Et au regard des milliers de personnes, c'est toujours touchant, quoi.
Vous avez parlé de Petite Main, c'est le titre du film, des invisibles, femmes de ménage, femmes de chambre. Si les auditeurs d'Inter se reconnaissent et s'ils ont envie de nous parler de ces métiers qui peut-être sont les leurs, eh bien les auditeurs nous appellent 01 45 24 7000 pour échanger avec nos invités. Ça se passe aussi via l'application France Inter. Nessim Chikaoui, qu'est-ce qui vous a poussé vers cette histoire, vers ces histoires? J'ai dit, il y a eu plusieurs mouvements sociaux dans plusieurs hôtels de France ces dernières années.
Ce qui nous a poussé avec les producteurs, avec Alice et Mathieu, c'était de comme le disait Sylvie, c'était important de montrer ces gens au grand écran. Et puis en plus, c'était très actuel, c'est fort et c'est beau de voir ces femmes qui décident de lutter contre un grand groupe. Et voilà, d'avoir ces femmes courageuses, il n'y a rien de plus beau que montrer ça au cinéma. Quoi.
Votre lutte, vous l'avez menée à l'hôtel Ibis. Sylvie, vous avez fait le choix, Nessim, de tourner dans un palace. Pourquoi ce choix ?
Je trouvais ça intéressant.
Il y a eu une grève dans un palace parisien,
au Parc
Hayat, c'est pas de la fiction. Hein.
C'est pas de la fiction. Alors, pour être juste, il y a 90%, je crois, des palaces qui, eux, se refusent d'externaliser le cœur de métier, c'est-à-dire les femmes de chambre.
Oui, c'est le cœur du film.
C'est ça.
Les travailleuses qui sont salariées de l'hôtel et puis celles qui sont employées par les sous-traitants. Et
exactement.
Tout le combat, c'est d'être à l'intérieur et d'être salarié du groupe.
Mais je trouvais que c'était plus beau, déjà, cinématographiquement, à montrer les palaces, parce qu'on ne connaît pas forcément. En tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, je ne connais pas trop.
Pas beaucoup, non.
Et puis, c'était...
C'est ce qui m'a beaucoup plu, d'ailleurs, dans le film, j'ai appris plein de choses.
L'attitude palace. Et c'était important. Et puis même de montrer cette différence entre les classes sociales, c'est important. De montrer que ces femmes qui touchent 800-900 euros, de les montrer, d'ailleurs on ne montre pas les clients, de montrer que c'est grâce à ces femmes-là que ces chambres puissent valoir entre 8000 et 9000 euros. Donc c'était... Et puis en plus, il y avait un truc qui m'avait marqué, moi c'était dans Titanic, j'en parle toujours, c'est une des références, c'est quand DiCaprio est dans le troisième sous-sol, et il monte ensuite en haut, quoi, je sais plus, dans la classe supérieure. Quoi. Et je voulais un petit peu ça aussi, montrer l'envers du décor, montrer les sous-sols où travaillent toutes ces petites mains, parce qu'il y a les femmes de chambre, mais il y a les valets, il y a les jardiniers, tout le monde, et montrer qu'en haut, c'est le luxe, donc c'était... marrant de montrer cette classe sociale différente.
La France d'en haut, la France d'en bas,
ouais, comme
disait un ancien Premier ministre. C'est facile, Nessim Chikaoui, d'appeler un palace en disant « Bonjour, on aimerait bien venir tourner chez vous pour parler d'un mouvement de grève et de la mobilisation de femmes de chambre qui se battent pour leurs droits ».
Non, je remercie encore la repéreuse parce que c'est un vrai métier. C'est une personne qui est dédiée à trouver les décors. Et elle a appelé, je crois, tous les hôtels palace et 5 étoiles. Il n'y en a eu qu'un seul qui a accepté, c'était le Bristol. Ça a été super. Bon, après, c'est en moyennant finance, évidemment.
Oui, c'est pas gratuit.
C'est pas gratuit. Mais ils ont été top. Et puis, en plus, ils internalisent leurs femmes de chambre. Et donc, c'était bien.
Il y a cette remarque au départ, quand l'héroïne arrive et qu'elle travaille dans ce palace, qu'elle discute avec l'une de ses amies. Elle lui donne le prix des chambres, Sylvie Kimissa Esper, et le prix du coca. et elle lui dit, mais toi, combien tu gagnes à l'heure? Ah, ok. Tu vaux même pas un demi-coca. Donc il y a cette différence énorme entre ce que représente ce palace et puis la valeur du travail.
Exactement.
Oui, exactement. Il y a énorme différence parce que...
Est-ce que vous aussi, vous avez vécu ça? Vous n'avez pas travaillé, vous ne travaillez pas dans un palace, mais est-ce que vous ressentez ça aussi?
Oui, je n'ai pas travaillé dans un palace, mais on ressent ça partout. Parce que en fait, le problème, le vrai problème, c'est quoi? C'est parce que vous voyez déjà les gens qui travaillent dans le palace, c'est le même métier en fait.
Ouais.
Les gens qui travaillent dans le même palace, les gens qui travaillent dans les hôtels 3 étoiles, 4 étoiles, mais c'est le même métier en fait. C'est le même métier. Et ces gens-là sont souvent... c'est le même métier, mais ils sont souvent décalés de c'est le même salaire de misère.
Ouais.
Parce que c'est pas que parce qu'ils travaillent à Palace qu'ils gagnent des 2000 euros. Voilà. Et elles restent toujours femmes de chambre. Elle reste toujours femme de chambre, comme à Ibis des Batignolles.
Je voudrais qu'on écoute un extrait de Petite Main. C'est le moment où le personnage de Safiatou, interprété par Marie-Sona Condé, décide de se rebeller. Elle a beaucoup hésité et finalement, il y a un déclic et elle va rentrer dans le mouvement de grève.
Ils ont dit quoi, là?
Ils refusent de discuter. Ils veulent rien savoir.
C'est fichu.
Je sais pas vous, mais il y en a marre. Il y en a marre.
Tu fais quoi, là?
Il y en a marre d'être invisible. Il y en a marre qu'on nous exploite. Marre qu'on se moque de nous comme ça.
Mais tu vas où, là?
Il croit quoi? Qu'on va rester comme ça, on va rien dire? On fermera pas nos bouches. On ferme pas nos bouches. J'ai rejoint Ludivine et les filles.
C'est une blague, j'espère.
Mais est-ce que j'ai une tête à rigoler?
Mais comment on va faire? Écoute, tu vas reprendre tes esprits, tu vas t'excuser et tu vas...
Je vais m'excuser?
Oui, tu vas t'excuser, oui.
Moi, je vais m'excuser? Je vais m'excuser de quoi?
On n'a pas le choix, sa fille. Arrête tes conneries.
Si, on a le choix. On a le choix. Et moi, j'ai décidé que c'était fini de me faire exploiter. Tu comprends ça? C'est fini.
On a le choix de rentrer dans la lutte, dit Safia Tou. Est-ce que vous êtes retrouvés dans ces échanges, Sylvie Kimissa Esper? Est-ce que à l'époque, vous, avec vos proches, avec votre famille, peut-être il y avait eu ce débat de dire, bah oui, mais dans la grève, je suis pas payé en fait, et il y a des enjeux énormes. Est-ce que ça vaut le coup de rentrer dans ce combat qui s'apparente quand même un peu au départ au combat du pot de terre contre le pot de fer? On se dit que vous avez peu de chances de gagner.
Vous savez, quand vous êtes maltraité, quand vous êtes humilié, quand vous rabaisse, parce que vous êtes femme de chambre, parce que vous ne valez rien. Mais je crois que, moi je dis toujours, aujourd'hui si on parle des hôtels, on doit parler des femmes de chambre. Parce que c'est la femme de chambre qui est la fondation des hôtels. Parce que sans les femmes de chambre, ce n'est pas un hôtel, on appelle ça un restaurant. Parce que souvent, les donneurs d'ordre internalisent la partie hébergement sans la réception. La réception n'est pas sous-traitée, c'est la partie hébergement, là où la majorité des femmes font les chambres.
Mais comment ça s'est passé, vous, à l'époque, avec vos proches? Est-ce qu'ils vous ont soutenu tout de suite? Est-ce que ça a été dur d'expliquer votre choix?
Non, ils ne m'ont pas soutenu en dehors, parce que vous savez, il y a la peur.
Eh oui.
Il y a la peur, ils disent que oui, tu te mets dans un combat comme ça, vous n'allez pas gagner contre le groupe Accor. Mais quand tu as tes convictions, parce que moi, il y a ma sœur qui m'a toujours, elle m'a remercié seulement le jour qu'on a dit que j'ai gagné.
Ouais.
Mais sinon, tu rentres tout le long, mais tu fais une connerie, tu fais une bêtise, il faut arrêter, il faut... C'est-à-dire, les proches ne sont jamais... On ne vous tolère pas. C'est-à-dire, c'est pas... C'est... Nous, pendant la grève, il y a des camarades qui étaient en grève avec nous, mais que les maris... Les maris nous ont dit, écoute, tu m'arrêtes ça. Ah parce qu'ils repartaient à la maison, on les tabassait chez les maris. Les maris les frappaient parce qu'elle était en grève. Pourquoi? Parce que l'autre appelait son mari pour dire que oui, ta femme fait la grève, on va la licencier. Parce qu'on ne connaît pas trop les règles, on ne connaît pas trop les droits. Et du coup, les femmes ont peur de se prononcer. Mais ce qui s'est passé à Ibis des Batignolles, ce n'est pas seulement à Ibis des Batignolles que ça se passe. C'est dans plein des hôtels de Paris. Que c'est comme ça que les femmes se taisent, qui n'arrivent pas à parler.
Avec ces souffrances, ces douleurs, vous filmez, Nessim Chikaoui, le quotidien, la réalité du travail. On entend ce chant là, c'est très festif, on va y venir d'ailleurs, mais mal au dos, voilà, il fallait montrer ça, la réalité de ce travail.
Bah, c'est la réalité. Moi, quand j'ai rencontré Sylvie, Rachel et d'autres femmes de chambre, c'est la souffrance du corps. Et même ma mère, moi, qui n'était pas femme de chambre, qui était aide à la personne, aide. Bah pareil, à 65 ans, le corps est fatigué, est cassé, et ça vaut le... Enfin, c'est pour les femmes de ménage, mais c'est pour ça que je l'appelais petite main aussi, c'est énormément de métiers. Ma mère, moi, elle était serveuse aussi, mais c'est des métiers harassants, où t'es debout tout le temps, en talons, parce que aussi les femmes de chambre sont tout le temps en talons, et donc c'est des métiers qui brisent les corps, et donc c'était important de le montrer.
Le lève-lit, c'est une revendication très importante. Je ne connaissais pas le lève-lit. En quoi est-ce que c'est indispensable, Sylvie Kimissa Esper, d'avoir un lève-lit? Parce qu'il faut soulever tous les lits pour faire la poussière dessous, c'est ça
la difficulté? Matelas,
oui. Les matelas?
Oui, parce que quand on fait le lit, tu soulèves le matelas pour mettre le drap sous le matelas. C'est comme on montre dans le film, vous voyez le matelas déjà de 30 cm, vous la soulevez, et puis souvent vous êtes seul. Alors, vous voyez un peu à la longueur de la journée, 21 chambres, 21 matelas soulevés. C'est à la fin de la journée, tu te tiens pas debout.
Oui, les articulations, les ligaments.
Voilà. Parce que c'est la répétition des travail, en fait.
Ça fait partie des revendications, comme l'aspirateur. Il y a très peu d'aspirateurs dans ce palace.
Tout à
et donc,
fait.
On passe son temps à chercher l'aspirateur et ça produit un effet comique. Et c'est l'autre aspect du film, quand même, Nessim Chikaoui. Vous faites le choix d'en faire une comédie. Ouais. On rit. Ça doit être joyeux. Parce que la lutte a été joyeuse.
Exactement.
Aussi.
Moi, quand j'avais rencontré ces femmes, elles m'avaient dit « Qu'est-ce qu'on a rigolé ?» Et c'était important aussi de le montrer. Parce que souvent, nous, en France, mais ailleurs aussi, on pense que la lutte, c'est que terne, gris, dépressif. Et c'est vrai, parce que c'est très fatigant de faire la grève. Tu perds de l'argent et mentalement. Et en plus, tu as un sentiment de culpabilité envers ton employeur et ta famille. Mais c'était important de montrer cet aspect, en tout cas, du mouvement de ces femmes de chambre qui a été très solaire. joyeux. J'ai vu beaucoup d'images d'archives où vous faisiez à manger et à distribuer aux clients ou aux passants. Ça
Elle
dansait.
Rit, Sylvie.
Et puis il y a le parc Hayat. Les femmes, femmes de chambre du parc Hayat.
De ce palace parisien.
De ce palace qui, elle, a eu cette idée de Fashion Week pendant la Fashion Week. Et ça, c'était indispensable.
C'est une scène qu'on retrouve dans le film. Vous êtes marré pendant ce combat qui a été extrêmement dur. Vous nous l'avez décrit, mais il y a eu aussi des moments de rigolade, Sylvie.
Il y a eu plusieurs moments de rigolade. Plusieurs moments de rigolade parce qu'il y a eu plusieurs moments de frustration, plusieurs moments de rigolade. Parce qu'on se disait que est-ce qu'on va y arriver? Mais. On va dire non, on va tenir tête jusqu'au bout, on va aller jusqu'au bout, même si c'est en 2024, on va y arriver. Parce qu'il y a des moments là où quand on jetait les confettis dans les halls des hôtels, ça nous faisait rigoler quoi.
Merci d'être venu parler de ce film avec le sourire, mais aussi avec le détail des souffrances qui ont été les vôtres et la force de votre combat. Le film s'appelle Petitement, on a eu beaucoup de messages. Corinne qui nous dit d'être attentif au personnel exploité, nous dit-elle, sur les paquebots de croisière, indonésiens, philippins, indiens, mauriciens, nous dit-elle parmi ces personnels. Vidier qui salue les femmes de chambre et leur combat et Philippe qui renvoie sur le film d'Emmanuel Carrère, Wistreham, qui vous a peut-être servi d'inspiration aussi, Nessim Chikawi, suite au travail de Florence Omna. Petite main en salle aujourd'hui. Merci à tous les deux.
Je peux dire un petit mot ?
Très vite.
Juste un petit bonjour à Jocelyne et Philippe qui sont des auditeurs de France Inter. Mes beaux-parents, je les embrasse.
Merci à vous. 13h45 sur Inter.
Okay.
Une semaine dans leur vie. Depuis lundi, nous sommes dans la caravane présidentielle en voyage officiel entre Brésil et Guyane pour découvrir les secrets de l'organisation. Avec une préoccupation permanente, c'est la sécurité. Cela passe notamment par le déminage à toute heure du jour et de la nuit. Nous retrouvons donc Maxence Lambrec qui est ce matin-là à Cayenne, en Guyane.
Oh là, il est 3h55, je me réveille, rendez-vous 4h20 dans le hall de l'hôtel. Pourquoi ? Parce que c'est le déminage. Une fois que les chiens auront fait leur travail, nous, on attendra peut-être avec un café. Et d'ici là, il faut que je trouve mon badge qui est dans mon sac. Ah bah ça va, j'ai trouvé.
Bonjour.
Et voilà, c'est bon, on monte dans le bus. Et c'est bon, on est tous dans le bus. Et 4h25, on est à l'heure. Sur le parking, les lampadaires allumés. L'hôtel nous a quand même ouvert le petit déjeuner dès 4h, c'est sympa. Et maintenant, les deux bus vont prendre la direction de l'aéroport pour le fameux déminage. On est dans le hall de l'aéroport Félix Éboué de Cayenne. Juste devant, là, il y a quelques instants, on vient d'être déminé et je rejoins maintenant le grand chef. Comment vous vous appelez ?
Oui, bonjour, je suis le commandant Étienne Bertelin, chef du centre de déminage de Guyane. Ce matin, on a déminé tous les cortèges, le cortège au complet, tous les véhicules, le matériel. Et donc, on utilise à la fois les chiens, mais aussi on a des robots. Robots d'observation, principalement pour le dessous des véhicules. Dans tous les voyages du président de la République, il y a des chiens en recherche expéo.
Et ces chiens-là, ils sont endormis pendant les longs vols. Là, on a mis 12 heures pour venir.
Non, ils ont l'habitude.
Ils voyagent en soute ?
Ils voyagent en soute.
Ils aboient jamais, ces chiens ?
Non, ils sont dressés. Hein. Ils adorent leur maître. Tous les endroits où va passer le président seront inspectés, fouillés par les démineurs et les chiens. Et
j'ai déjà vu parfois des autocollants sur les sanitaires. C'est-à-dire qu'il a...
Des scellés, oui. Oui, on inspecte et on ferme les portes avec un scellé inviolable. Si jamais le président a besoin, il aura des locaux qui ont été inspectés.
Donc dans chaque lieu où le président va, vous vérifiez qu'il y ait des sanitaires qui soient sécurisés, c'est-à-dire que le chien est passé par là,
oui,
pour que vous mettez ensuite un scellé,
oui.
Et le président seul peut enlever le scellé, c'est ça ?
Oui, ou son assistant.
Et donc ici, dans l'aéroport, c'est le cas aussi
Effectivement.
La journée continue et maintenant on attend Emmanuel Macron. Il est passé 18h au conservatoire de Cayenne où les flûtes, les violons des élèves ont aussi eu le droit aux chiens. Mais cette fois, il y a Orper qui sent quelque chose.
Tous les jours, enfin à chaque fois qu'on travaille, on découvre, heureusement, jusqu'à maintenant, pas d'explos dans les sacs. En fait, le chien risque de se démotiver puisque tous les jours il cherche et il ne trouve jamais rien.
Donc là, le chien, il vient de remarquer qu'il y avait bien une odeur, c'est ça ?
Bien sûr, une molécule. Mm-hmm. Il a découvert une molécule qu'il a apprise. Et donc, du coup, il s'est posé à côté du sac et il attend que son maître le récompense.
Et alors, qu'est-ce qu'il lui a donné pour récompenser ?
Un jouet. Okay. Voilà, il joue avec son maître. C'est la meilleure récompense pour lui. C'est la complicité.
Maxence Lambrecq pour ce feuilleton et Stéphane Ronxin à la réalisation. La suite demain.
France Inter, le 13-14.
C'est la France à 13h49, le mercredi avec Éric Fotorino du 1 Hebdo. Éric, vous nous décrivez cette France qui change sans qu'on le voie aujourd'hui, la métamorphose de la SNCF. Ainsi, ces nouveaux TGV présentés avant-hier, en apparence, Éric, en apparence, une bonne nouvelle.
Oui Jérôme, et les usagers que nous sommes du train à grande vitesse sont très intéressés par l'aspect des nouvelles rames du TGV-M qui arriveront sur le réseau de la SNCF à partir de 2025, quand on attendait les premières pour les JO de Paris cet été. Présentés en grande pompe, vous aurez retenu que ces trains seront moins gourmands en énergie avec une couleur blanche qui permettra, en cas de grosse chaleur, de réduire la climatisation. Il y aura 20% de place en plus, un espace plus grand pour chaque passager et aussi pour les vélos, ce qui n'a pas échappé à mon petit deux roues pliant. Mais comme tous les voyageurs, la question reste de savoir pourquoi les billets de train sont si chers, question que nous posons directement aujourd'hui dans le 1 Hebdo. C'est le grand spécialiste des transports Gilles Dansart, ancien rédacteur en chef du journal mythique La Vie du Rail, qui a éclairé notre lanterne quelque peu embrumée par la complexité des tarifications. Si le prix d'un billet de TGV pour Bordeaux peut coûter de 20 à 120 euros, soit un rapport de 1 à 6, s'il est plus cher de faire un Paris-Bordeaux dans un TGV à deux étages, transportant un millier de passagers plutôt qu'un Paris-Rom en avion, c'est bien que quelque chose est détraqué, anormal, pour ne pas dire injuste. L'explication, nous dit Gilles Dansart, est dans une expression un peu barbare qui désigne le système de tarification adopté par la SNCF dans les années 80, connu sous le nom de Yield Management. Là où historiquement le prix d'un billet était calculé au kilomètre parcouru, c'est désormais l'offre et la demande qui fixent le prix très changeant d'un voyage. Si vous ne vous y prenez pas 3 mois à l'avance, vous risquez de payer votre billet fort cher.
Et c'est ce qui explique, Eric, l'incompréhension, parfois la colère des voyageurs.
Ce système est en effet très critiquable, car imprévisible pour l'usager qui connaît surtout de mauvaises surprises. Et comme le note Julien Bisson du 1 Hebdo, difficile de s'y retrouver dans le dédale des prix qui augmente dès que l'on se connecte 2 fois de suite à l'application SNCF, comme pour nous faire payer notre intérêt manifeste pour une destination. Mais les raisons du mécontentement vont au-delà du yield management qui aboutit à ce que nos billets soient en général plus coûteux que partout à l'étranger.
Au fond, Eric, qu'est-ce qui dysfonctionne vraiment à la SNCF ?
C'est une erreur d'appréciation de l'État qui est à l'origine de nos déconvenues. On assiste en effet à une pénurie du nombre de rames au regard d'une demande qui ne cesse d'augmenter, en particulier depuis le Covid et les réorganisations qu'il a pu entraîner dans les choix de vie et de mobilité des Français. Ces 15 dernières années, après la crise financière de 2008, nous sommes passés de 500 rames à grande vitesse à moins de 400, ce qui a créé une véritable tension sur les lignes, d'où aussi la flambée des prix. Ajoutons que l'État actionnaire a eu tout intérêt à puiser dans la rente de la SNCF plutôt que d'investir lui-même dans la modernisation du réseau. Autrement dit, ce sont les usagers qui financent largement les nouveaux TGV. Si on ajoute les plaintes récentes de voyageurs devant les pratiques abusives de contrôleurs, sachant que ces derniers perçoivent jusqu'à 10% du montant des amendes qu'ils font payer en cours de trajet, on comprend que la SNCF doit mieux faire, surtout si nous voulons que le train devienne sans tarder le transport écologique et moderne de demain.
Merci Éric Fotorino, et c'est donc à la une cette semaine du 1 Hebdo. 2, c'est la France, c'est une chanson. C'est avec un écrivain, Grégoire Delacour, que vous parlez chanson aujourd'hui, Frédéric Pommier.
Grégoire Delacour qui vient de publier la suite de son best-seller La liste de mes envies, 12 ans après le premier tome, un tome 2 en somme, sorti chez Albin Michel. Et avec lui, nous avons parlé d'une chanson du groupe REM, une chanson qu'il a découverte alors qu'il exerçait encore son précédent métier de publicitaire.
Je réalisais un film au profit de la Ligue contre le cancer. Ça se passait au Touquet, c'est un petit garçon qui courait sur la plage, qui allait voir son frère. Et la voix off parlait d'amour puisqu'il allait lui donner sa moelle épinière, etc. pour une greffe. Et il a plu. Et le film s'est jamais fini. Et je me suis retrouvé avec quelques rushs que je trouvais extrêmement beaux, formellement. Et le monteur m'a fait le cadeau de me monter les rushs que j'avais fait, qui ne serviraient jamais, en mettant pour lui la musique la plus belle pour ses images. Et il a mis Everybody Hurts de REM, que je ne connaissais pas, et je suis tombé en larmes. J'ai trouvé cette musique d'une beauté poignante, là d'ailleurs j'ai la chair de poule en vous en parlant, et j'ai dit, mais c'est pas possible, c'est aussi beau un son, une voix. Et après je me suis intéressé à ces paroles, parce que j'aime bien les paroles, et j'ai compris de quoi ça parlait, et ça m'a touché. C'est ce besoin de pas céder à ses chagrins, que tout le monde pleure, et que c'est pas grave si on est en souffrance, il faut pas choisir nos faces sombres. Et si le chanteur de REM dit que cette chanson a sauvé la vie de pas mal de gens, et d'ailleurs, il en est fier, il dit « c'est notre Oscar à nous, cette chanson, c'est notre victoire ». Je crois que j'ai aimé aussi pour cette audace d'une chanson qui dit aux gens « finalement, aimez-vous ». C'est la chose la plus sublissime qu'on peut donner à quelqu'un, c'est de lui dire « aime-toi ». C'est rare d'avoir des émotions pareilles.
De pleurer en découvrant une chanson, c'est rare. Ouais.
Et mais je peux encore, hein, quand je l'entends, ça me tisonne, ça me chignole le cœur, c'est incroyable, incroyable cette musique. When your day is long.
En 1992 qu'est sortie cette chanson Everybody Hurts, Frédéric, c'était le 8e album du groupe REM.
Une chanson qui invite à s'accrocher, à ne pas lâcher quand on souffre, quand tout va mal, et chanson dans laquelle Grégoire Delacour entend donc aussi qu'il faut s'aimer, arriver à s'aimer soi-même. Dès lors, je lui ai demandé à quel moment lui-même avait commencé à s'aimer.
Je crois que ça commence. Ça a été long, mais c'est possible.
Et qu'est-ce qui, jusque-là, vous a empêché de vous aimer ?
Mon enfant mort en moi. L'idée que, quand on est une victime, on est forcément quelque part responsable ou coupable de quelque chose. Il faut admettre que non. Il faut admettre qu'on peut être quelqu'un de bien qui en fait du mal. Il faut aimer la personne blessée aussi en nous, qui n'est pas 100% réparable, qui reste fragile, mais qui peut être une belle personne. Quand on décide que le mal s'arrête avec vous, qu'il ne vous transpercera pas et que vous ne le reproduirez pas, alors on commence quelque chose de beau vers les autres, quoi.
Quand vous dites « mon enfant mort », c'est un enfant qui a été abusé ?
Oui, oui. Cet enfant, il a été étouffé, donc il a eu une vie chaotique après, il a grandi dans mon corps d'adulte de guingois. Et là, on s'est retrouvés, on s'est fusionnés à nouveau, et je suis fait de lui aussi. Mais il y a une tristesse, mais il faut la laisser partir aussi, et garder les choses jolies, parce que même si on vous a fait du mal, vous n'êtes pas que le mal, et ceux qui vous le font ne sont pas que des monstres non plus. Il y a des parts belles, mon père a des parts belles, et c'est celle-ci dont j'ai envie de me souvenir maintenant.
Aimer vous-même, c'est une façon aussi d'accueillir à nouveau cet enfant pour qu'il grandisse de façon un petit peu plus sereine et joyeuse.
Oui, c'est le guider en tout cas, c'est le mettre au bon endroit de son chemin d'adulte, son chemin de vie. Quand vous êtes abîmé, ça fausse toutes les relations que vous avez au monde et aux autres, et aux femmes et aux amis. Et de remettre ça dans le bon ordre, c'est très très important. Et cette chanson, c'est ce qu'elle raconte aussi, c'est que si on se raccroche aux bonnes personnes, on est à nouveau irrigué d'amour, irrigué de tendresse, et on a besoin de ça.
Vous pensez que ce sont les autres qui nous sauvent ?
Je crois que l'amour sauve l'autre. Oui, donc je crois que les autres nous sauvent. C'est le cœur de la chanson. Elle dit « accroche-toi, régénère-toi auprès de tes amis, compte sur eux, il y a de l'amour qui va t'être donné, va le chercher ».
Le chanteur du groupe a donc dit que cette chanson avait, il le savait, sauvé des vies. Est-ce que vous avez l'impression que cette chanson elle a vraiment participé de votre réparation ?
Elle a montré le chemin. Donc elle participe. Elle a été une des premières pierres en disant ouais, tourne-toi vers toi, vers la vie, vers ouais, sûrement, c'est sûr.
La vie est possible et elle peut être belle.
La vie est belle et elle peut être possible.
Everybody Hurts, REM, c'était donc Frédéric, le choix de Grégoire Delacour.
Grégoire Delacour qui vient de publier chez Albin Michel la suite de son roman La liste de mes envies.
Merci Frédéric, je vous dis à demain. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Jérôme.
J'adore votre sujet du jour.
C'est vrai ?
Ah ouais, je trouve ça super.
Bon, ben pastoralisme, donc on va partir, on vous embarque en montagne aujourd'hui.
On vous suit volontiers, à tout
Merci.
De suite.
Merci, à tout à l'heure.
Bien, j'ai parcouru votre CV, c'est très impressionnant. 12 ans d'expérience dans de grands groupes, comme dans